IBEM.
IBEM, Institut Biblique Enseigne-moi, la formation biblique par excellence. Des enseignements de grande qualité spirituelle et loin.
Vous écoutez un cours de première année, année qui comprend plus de 300 heures de cours en audio et vidéo.
Institut Biblique Enseigne-moi, pour ceux qui ont soif de grandir.
Rendez-vous sur www.ibem.fr.
www.ibem.fr.
Deuxième cours de la prière numéro 1. Je vous fais un bref résumé. Je vous ai montré d'abord une introduction sur qu'est-ce que la prière, nous avions vu. On s'est aperçu que ce n'était pas un devoir religieux, mais en fait, ça va être quoi? Ça va être le découlement de quoi? De notre relation. Nous avons remarqué que nous, les chrétiens nés de nouveau, qui représentons, on avait expliqué ça, Dieu sur la terre. C'est-à-dire que Jésus est la tête, il est dans le ciel, et nous sommes quoi? Le corps. Jésus est celui qui décide, il est dans le ciel. Et nous sommes les exécutants en tant que corps de Christ. Jésus nous laisse et nous a laissé des ordres, mais nous dirige aussi par le Saint-Esprit et nous exécutons. Et la voix du Seigneur se répand, dirions-nous, au travers de son corps. Et chacun de nous, nous avons une responsabilité par rapport à cela. Et cette responsabilité, entre autres, se fait au travers de la prière, tout simplement. Et c'est important de comprendre ce principe. Alors, nous avons vu que prier, c'est quoi? Prier, c'est s'adresser à Dieu d'une manière générale. Vous vous rappelez, je vous avais donné cette définition. Communiquer avec lui, demander, remercier, louer, adorer. Nous avons aussi remarqué un certain nombre de choses à propos de la prière. Nous avons remarqué d'abord que nous sommes en relation avec Dieu. Nous sommes en communion. Nous avions étudié 1 Jean 1,3, vous vous rappelez? Où Jean nous dit quoi? Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Notre communion est. Je vous ai montré que le mot communion, c'est partager, dans la même coupe, être ensemble et partager ensemble, partager intimement ensemble, d'accord? Et la Bible nous montre que nous sommes. Nous n'allons pas être ou nous n'avons pas été, mais nous sommes. Nous sommes depuis quand? Depuis notre nouvelle naissance. Le fait d'être né de nouveau, cela nous ouvre quoi? Une communion, une relation avec Dieu. Alors, je vous ai montré aussi que on parle de communication, mais qu'est-ce que c'est que communiquer? Communiquer, c'est parler, d'accord? Ça, tout le monde le sait le faire. Ça, les chrétiens savent beaucoup parler à Dieu, ça c'est sûr. Mais il y en a beaucoup qui parlent qu'au mur et au plafond, mais en tout cas, ils parlent. Ça c'est moins qu'on puisse dire. Ils racontent tous leurs trucs à Dieu. Il y en a, ils racontent toutes les situations, et ils décortiquent la situation. Et un tel, Seigneur, tu sais qui m'a dit ça, et qui m'a dit ça. Et Seigneur, tu vois, après, il m'a répondu ça. Et Seigneur, tu vois, après ceci. Et Seigneur, il y en a, ils sont très forts là-dedans pour aller raconter toutes leurs petites histoires à Dieu, comme si c'était leur maman. Bon, mais. Il y a quand même des choses qui sont claires dans la prière, quand même des choses qui sont complètement abusives, ok? Alors, parler, d'accord, mais il y a aussi écouter dans la communication. C'est-à-dire que la communication n'est pas à un seul sens, sinon ce n'est pas de la communication. La communication, c'est à double sens. C'est l'émetteur, mais l'émetteur est à la fois émetteur et récepteur. Et des deux côtés, il y a émetteur et récepteur. D'accord? Quand quelqu'un, vous écoutez la radio, eh bien, vous êtes seulement un récepteur, vous écoutez ce que les autres disent. Mais s'il y en a un qui dit quelque chose qui ne vous plaît pas, vous ne pouvez pas aller le voir, lui serrer le cou et lui dire « Non, je ne suis pas d'accord avec toi ». Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas lui répondre. Ou dire « Ah, c'est très bien ce que tu dis, bravo ». Non, vous ne pouvez pas faire ça. Ou attends, vous pouvez le faire, mais vous serez tout seul, il ne vous entendra pas. Donc cette communication, c'est une communication à un seul sens à ce moment-là. Mais la vraie communication est une communication à double sens. À savoir que moi, je parle à Dieu. Dieu m'entend, dans le sens de vraiment m'écouter et m'entendre. Okay? Mais aussi, Dieu me parle. Et moi, je dois aussi écouter Dieu. Et aussi, une chose importante, c'est que ce n'est pas un dialogue de sourds. Vous savez, des fois, quand on parle à des gens, on a l'impression de parler au mur. Je ne vous dirais pas que ma femme me dit souvent ça, mais des fois, c'est vrai. En fait, quand on parle à quelqu'un, si la personne ne vous écoute pas, vous savez, vous êtes dans le même endroit, vous parlez comme ça, et puis à la personne, et vous avez l'impression que tout ce que vous dites, ça lui passe à côté. Vous n'avez jamais remarqué ça? Sérieux, tout le monde. Vous êtes comme ça aussi. Moi, des fois, je suis comme ça aussi. Pas bien d'être comme ça. Et en fait, vous faites... Puis en fait, vous êtes en train de penser à autre chose en vous disant, bon, bientôt, il aura terminé son discours, elle aura terminé son discours. Bon, et puis je serai tranquille, d'accord? Et en fait, ça, c'est un dialogue de sourds, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'en fait, la personne vous a dit ça, puis vous dit, alors tu m'as entendu, Oui. Et puis en fait, vous n'avez rien entendu. Vous avez... Pourquoi? Parce que pouf, vous avez fermé le récepteur, tout simplement. D'accord? Bon, avec Dieu, c'est pas comme ça. Nous sommes en relation avec Dieu, et ce que Dieu veut, c'est que justement, cet aspect de communication se développe. Il se développe, tout simplement. Et ça va être la prière. Voilà. La prière est définie là. Communication avec Dieu qui va se développer. Se comprendre. Je lui parle, il me parle, et on se comprend. C'est ça la prière, c'est ça. Quand on dit je prie, hein, j'aime pas trop cette expression que vous utilisez. Dans quelle église tu vas prier ? Dans quelle église tu pries ? Ah bon, parce qu'il faut être à l'église pour prier. Vous voyez, c'est... Non, j'aime pas trop, je sais que c'est un terme, mais quand même, j'aime pas trop parce que ça mène un peu à confusion, parce qu'on a l'impression qu'il faut être seulement à l'église pour prier. Non, la prière est une communication. La prière est une communication. On échange avec Dieu. Ça peut être n'importe où, tu peux échanger avec Dieu. C'est une communication. C'est une communication ouverte. Dieu nous a branchés, nous sommes connectés, nous avons un abonnement avec Dieu, hein, jusqu'à l'éternité. Hein, on n'a pas besoin de remettre des cartes à 5000 balles. Hein. Votre abonnement se termine. Vous devez recharger votre téléphone avec une nouvelle carte. Hein. Je ne sais plus comment elle dit la dame, mais elle parle bien français. Et en fait, on se dit, ah ça y est, j'ai plus que quelques jours, après je suis foutu. Non, avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, c'est ouvert et ça reste. Ça reste ouvert. Ça reste toujours ouvert. Tu lui parles, voilà la prière. Voilà ce que c'est, une relation. Et ça, c'est vraiment définir la prière. Comme nous le verrons, un certain nombre de choses n'est pas la prière. Alors, communication, bien sûr, c'est extrêmement important. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui ont un big problème avec ça. Il y a des gens vraiment, quand ils prient, on n'a vraiment pas l'impression qu'ils prient. On a l'impression qu'ils crient sur Dieu. On a l'impression qu'ils font tout et n'importe quoi. Mais manifestement, on ne peut pas appeler ça de la prière. Prière est vraiment cette communication. Communication avec Dieu d'une manière générale. Regardons Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Un verset que je crois que nous avions déjà commenté en partie, mais là il va nous intéresser sur le côté prière. Il est dit, et Jésus parle de la prière ici. Si vous demeurez en moi, vous vous rappelez que si vous demeurez en moi, d'abord si c'est une condition, ok ? Il va y avoir deux conditions dans ce verset. La première, si vous demeurez en moi, c'est-à-dire si nous sommes nés de nouveau, être nés de nouveau. Et que mes paroles demeurent en vous. Alors, votre vie de prière sera fructueuse, c'est-à-dire que demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Donc en fait, qu'est-ce que Jésus dit ? Il dit le degré de réussite, le degré de réussite de notre vie de prière, le degré de réussite de notre vie de prière en tant que chrétien né de nouveau, le degré de réussite de notre vie de prière en tant que chrétien né de nouveau est proportionnel, très mathématique, est proportionnel au degré d'habitation est proportionnel au degré d'habitation de la parole de Dieu en nous. Est proportionnel au degré d'habitation de la parole de Dieu en nous. C'est un rapport direct. Direct. Si vous demeurez en moi, d'accord, je suis né de nouveau, ok, on parle des chrétiens nés de nouveau. Autre condition, le succès de ma vie de prière va dépendre de quoi ? De la parole de Dieu. La parole de Dieu qui habite en moi. La position de la parole de Dieu dans ma vie. Où est la place de la parole dans ma vie ? Donc ça va être aussi une chose importante que nous allons découvrir de plus en plus. Plus la parole de Dieu a un impact dans ma vie, plus ma vie de prière aura du succès. Et l'inverse est vrai. Et c'est là où on voit pas mal de chrétiens qui, bon, la parole de Dieu c'est un petit peu le dimanche, un petit peu la semaine, où je crois un truc, un machin, un bidule, et puis c'est tout. Mais finalement, cette parole n'a pas le temps de porter son fruit, n'a pas le temps de s'implanter dans les personnes. Ce qui fait que ça, pour prier, on en a. Des candidats pour la prière, et les jeûnes, et les longues prières, il y en a. Il y en a certains même, quand vous les invitez à la maison, et que vous leur demandez de remercier le Seigneur pour le repas, vous êtes sûr de manger froid. Parce qu'ils vont remercier pour tout. Et vous ouvrez un œil, vous dites, ça commence à être froid, tu sais. Parce qu'ils font de longues prières devant un repas bien chaud. Qui va rapidement refroidir. Mais en fait, on s'aperçoit, c'est pour beaucoup de gens, la prière, c'est vraiment quelque chose de bizarre. Je vous assure. Des fois, il y a vraiment de quoi rire, des fois, vous savez. Devant certaines situations, il y a des fois vraiment de quoi rire, vraiment. Mais regardez la vie de Jésus, c'était vraiment simple. Hein. C'était vraiment très, très simple. Vraiment, on a fait de la prière vraiment un truc bizarre. Hein. Il y a vraiment des chrétiens qui sont spécialisés, champions de la longueur de la prière. Plus la prière est longue, plus Dieu va nous exaucer, n'est-ce pas ? Hein ? C'est vraiment grave. Hein ? Il y a vraiment des gens, vous avez envie de mettre un cadenas, vous savez. Non, tu ouvres la bouche, mais prie, mais efficacement, tout simplement. Il y a des gens, ils vous racontent tout un tas de trucs, c'est grave. Hein ? Mais en fait, c'est pas ça. Vous voyez, Jésus dit une chose claire. La parole de Dieu doit avoir d'abord fait son chemin en nous. Et après, le côté prière, c'est pas le côté. C'est vrai que la louange et l'adoration... Nous le verrons, c'est vraiment un temps spécial. Mais quand il s'agit de demander, parce qu'il est vrai qu'ici Jésus quand même parle de la prière de demande, comme nous le verrons, c'est-à-dire là où on va demander des choses à Dieu, il y a certaines prières où on demande des choses à Dieu, il y a des prières où on va apporter des choses à Dieu. Par exemple, la louange et l'adoration, nous allons apporter, nous verrons qu'il y a différentes sortes de prières, mais dans la louange et l'adoration, j'apporte quelque chose à Dieu. Par contre, il y a des moments où on demande des choses à Dieu. Mais quand il s'agit de demander, vous verrez, c'est pas long, c'est pas des prières qui prennent longtemps. Parce que d'abord, il faut que la parole de Dieu fasse son chemin. Et c'est là où on voit l'impact, c'est là où on voit toute la différence, vous savez. C'est important de bien comprendre, d'être équilibré dans les choses de la prière. Alors, notez que n'encouragez jamais la prière qui dépasserait la parole de Dieu. N'encouragez jamais la prière qui dépasserait la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que la parole de Dieu dit. N'encouragez jamais la prière qui dépasserait ce que la parole de Dieu dit, ce que la parole de Dieu déclare. Je me souviens à l'époque, quand on s'était converti, on était encadré, donc on était dans une église des Assemblées de Dieu en France. Puis il y en avait des chrétiens qui étaient assez ouverts aux choses de l'esprit, mais de temps en temps, il y avait des débordements fanatiques, vous savez. Et je me souviens d'une sœur qui, il y avait de bonnes choses, hein, mais ça c'était un point qui m'avait toujours fait rire. C'est que, cette sœur manifestait vraiment la prophétie, le don de prophétie, c'était clair, parler en langue, don des langues, interprétation des langues, et prophétie, vraiment, elle était souvent utilisée par le Seigneur, et clairement. Mais il y avait des choses où, bibliquement, des fois, il y avait des dérapages. Et je me souviens un jour, de temps en temps, on faisait quelques veillées de prière. J'avais du mal à garder les yeux ouverts pendant ces veillées de prière, parce que c'était au début de ma vie spirituelle. Et en fait, je me souviens, alors, c'était des heures et des heures qu'on passait dans la prière, entre guillemets. Et alors, il y avait le frère chez qui on était, où on faisait ces réunions dans ce groupe de prière. Vous savez, dans les groupes de prière, il y a beaucoup de trucs qui se passent. Là, j'avoue qu'il y en a des trucs qui s'y passent. C'est là où on voit tout. Là, vraiment, ça serait intéressant. Vous savez, d'être comme une petite souris, vous savez, de temps en temps, aller faire un petit tour dans un groupe de prière, mais en étant caché, en mettant juste un petit micro, comme ça, on rigolerait des fois. Et en fait, dans ce groupe de prière, donc on priait pour des choses où il y avait des résultats, il y avait un manque d'enseignement évident. Mais alors, on était chez un frère et une sœur, donc un couple qui nous avait amené au Seigneur. On était 6 ou 7 en tout dans ce groupe. Et ce frère, donc, était en train de refaire sa maison. Et en fait, c'était lui qui faisait les travaux lui-même. Et alors, je me souviens de cette sœur qui, vraiment, par un débordement, je dirais, de... Comment on pourrait dire c'était charnel. Oui, c'était charnel, mais je dirais d'enthousiasme, dirions-nous. Elle priait. Oui, Seigneur, et que les anges, pendant cette nuit, viennent peindre cette maison pour que demain... Vous voyez, des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vont, vous savez, des choses qui... par enthousiasme débordant, dirions-nous, d'accord. On voit des choses comme ça. Ça, c'est des prières qui, je dirais, dépassent ce que la parole de Dieu dit, parce que les anges n'iront pas peindre notre maison, d'accord, hein. Vous voyez, parfois, c'est étonnant parce que ça me fait sourire maintenant. Mais vous voyez des choses, vraiment. J'avais vraiment été beaucoup béni par un début de vie spirituelle, par des gens qui m'avaient amené rapidement au baptême du Saint-Esprit, ces mêmes personnes qui étaient ouvertes aux choses de l'Esprit. Mais il y avait des choses comme ça de temps en temps qui débordaient dans des expériences, soi-disant expériences, ou soi-disant, je dirais, débordement d'enthousiasme, vous savez. Être enthousiaste pour le Seigneur, c'est une bonne chose, mais restons dans la lignée de la parole de Dieu. Ça, toujours, toujours dans la lignée de la parole. Si vous restez dans la parole, vous resterez toujours sur la piste, quel que soit ce que vous voyez autour de vous. Alors, une autre chose aussi, ne basez pas votre vie de prière sur vos expériences personnelles ou sur celles des autres. Ne basez pas votre vie de prière sur vos expériences personnelles ou sur celles des autres. Alors, la chose tout à fait classique que l'on voit, c'est normal, quand on est bébé spirituel, c'est normal. On va lire un bon livre. Ou telle personne, tel serviteur de Dieu, ou tel frère et sœur a vécu telle expérience et a prié d'une certaine façon et a vu tel résultat et a prié avec certains mots. Et qu'est-ce qu'on va faire souvent ? On va prendre le livre, on va reprendre la prière et qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire la même chose. Et puis résultat, ça ne marche pas. C'est classique, ça c'est une erreur classique qu'on a pratiquement, je pense, tous fait si on demandait à chacun d'entre nous. On ne peut pas baser sa vie de prière sur les autres. Ce n'est pas possible. On base sa vie de prière sur la parole de Dieu. Et quelqu'un qui vous donne un témoignage qui peut être 100% vrai, intervention divine réelle, etc., sachez qu'il était dans une certaine condition de foi à ce moment-là. Ce n'est pas le fait de prier les mêmes mots. Vous savez, quand on voit des belles cassettes de serviteurs de Dieu comme Bénin, par exemple, on prend la même voix et on dit « Au nom de Jésus !» Et d'un seul coup, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas l'onction. Il manque le principal. On peut toujours faire les mêmes choses, hein, lever les mains d'une certaine façon, prendre la veste et jeter sa veste sur quelqu'un. Hein. Bon, oui, mais s'il n'y a pas d'onction, bah, il récupérera la veste et peut-être qu'il court et il la revend au marché. Hein. Ça ne s'imite pas. On ne peut pas imiter les choses des autres, d'accord ? Ça ne fonctionnera jamais. Vous pouvez lire un bon livre de Yong Gisho, raconter les mêmes choses, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne base pas sa vie de prière sur l'expérience des autres, ou même sur notre propre expérience. Parfois, vous avez prié d'une certaine façon pour certaines choses. Ne repriez pas de la même façon pour la même chose, même si elle se passe, si les circonstances paraissent identiques. Parce que peut-être que la source derrière tout ça n'est pas la même. Eh oui. Et parfois, on se fait avoir avec ça. Mais basons-nous sur la parole. Parce que parfois, c'est l'erreur qu'on fait. Il y a tel problème qui se passe, on prie, parce que vraiment, le Saint-Esprit nous dirige par rapport à une écriture particulière, on prie telle prière, on se base sur cette écriture, on a la foi, paf. Et une autre fois, qu'est-ce qu'on va faire ? On va reprier la même chose, paf, et ça tombe dans l'eau, pouf. Puis finalement, on ne voit pas le résultat. Et là, on est troublé, on se dit, mais non, Seigneur, pourtant, la dernière fois, j'avais prié comme ça, et tu m'avais exaucé comme ça. Et puis finalement, c'est pas ça. Et souvent, ça se passe par exemple pour les boulots, vous savez. Des fois, il y a des gens, ils ont un boulot parce qu'ils prient d'une certaine façon. Et vraiment, ils sont dans la foi, ils reçoivent. Et vraiment, ils voient la manifestation claire de leur prière. C'est pas des bonnes circonstances, c'est pas parce qu'ils ont essayé de faire une façon détournée. Mais ils ont fait les choses clairement, ils étaient dans la foi et vraiment le Seigneur les a exaucés. Et puis la fois suivante, pour une raison ou pour une autre, ce boulot s'arrête, etc. Bon, et ils commencent à reprier de la même façon. C'est pas forcément ça, c'est pas ça la clé. La clé, c'est la parole. Dieu pourvoit, mais la façon dont il va pourvoir sera peut-être différente. Le chemin par lequel tu vas passer sera peut-être différent. Et ça, on a souvent tendance à se faire avoir. Parce qu'on a vécu une bonne chose une fois, on a vu la main de Dieu, gloire à Dieu, c'est bon. Et vous savez, nous sommes des êtres humains. On ne voit pas dans le monde spirituel. Notre esprit est né de nouveau. On grandit avec la parole, on grandit dans la connaissance de Dieu en expérimentant de plus en plus Dieu. Mais autour de nous, on ne voit pas ce qui se passe. Dieu, lui, connaît les choses. Dieu sait exactement le cœur des situations, connaît exactement les choses. Nous, Dieu nous dit dans sa parole un résultat qu'on veut voir se manifester. Mais la façon dont ce résultat va se manifester sera peut-être différent à chaque fois. Donc ne prenez pas une fois quelque chose qui a marché, un tel type de prière qui a marché, et paf, refaire exactement la même chose, parce que ça ne fonctionnera pas. Ça ne marchera pas. Nous ne basons pas notre vie de prière sur nos expériences ou sur les expériences des autres. Alors maintenant, nous allons étudier un texte à propos de la prière efficace. Jacques chapitre 5, du verset 14 au verset 16, mais c'est surtout la deuxième partie du verset 16 qui va m'intéresser. Jacques chapitre 5, verset 14 à 16. Jacques parle d'un cas particulier, de quelqu'un qui apparemment est rétrograde. Ici, il parle de gens qui sont tombés malades, parce qu'en fait, ils sont retournés dans le péché. C'est clair, hein, bon, le texte le sous-entend largement. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Alors bon, les anciens de l'Église, on verra, hein, quand on étudiera les ministères, ce qu'était un ancien par rapport à un ministère. Que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15, la prière de la foi sauvera le malade. Vous remarquez qu'il ne dit pas la prière sauvera le malade, mais la prière de la foi. Ok, on étudiera ça aussi. La foi marchera très souvent, bien évidemment, en conjonction avec la prière. Rappelez-vous que nous prions quelqu'un que nous ne voyons pas avec nos yeux. Et c'est important, je tiens à le dire et à le répéter, de ne pas faire n'importe quoi dans ce domaine-là. Quand vous vous adressez à l'invisible, il faut s'adresser à la bonne personne et de la bonne façon. Parce qu'il y a des gens et des chrétiens nés de nouveau qui sont des gens mystiques et fanatiques, qui commencent à vouloir absolument dire des choses avec conviction, avec ordre, avec grosse voix et tout ce que vous voulez, hein, tout ce qui entoure ce genre de personnes, de fanatiques, des choses qui ne sont plus scripturaires au bout d'un certain temps. Et ça devient dangereux. Il y a quelqu'un qui a écrit un jour un livre qu'il a intitulé « Le charismatique occulte », l'occulte charismatique, c'est-à-dire des gens qui commence au bout d'un moment à utiliser des formules, à parler, par exemple, à ordonner à telle personne de faire ça au nom de Jésus. Hein, c'est souvent des problèmes d'argent. J'ordonne à telle personne au nom de Jésus de me donner telle somme d'argent, de me donner sa voiture. Au nom de Jésus, je t'ordonne cela. Vous savez, les grandes réunions de prière, oui. Ça s'appelle de l'occultisme, excusez-moi de vous le dire. Hein. Ce n'est pas, c'est-à-dire la sorcellerie déguisée. Hein. Okay ? ce n'est pas du tout de la prière. C'est motivé au départ par de la convoitise. Et certaines de ces personnes vont très loin dans ce genre de choses. Et il faut faire extrêmement attention, parce qu'il y a des gens qui débordent et qui s'attirent. Hein. Je vous ai dit, il y a des gens qui ont cette fâcheuse tendance à être des aimants pour les choses diaboliques. Ok ? Alors, la Bible nous dit, la prière de la foi sauvera le malade, c'est-à-dire relèvera le malade si vous préférez. Et le Seigneur donc le relèvera, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Bon, on voit que Jack s'adresse en partie à des gens qui sont tombés dans le péché, et dont leur péché a amené une maladie. Hein. Rappelez-vous que le péché, vivre dans le péché, pour un chrétien, peut ouvrir, dans certains cas, des portes à la maladie. Pas toujours, loin de là. Nous connaissons des gens qui sont retournés dans le monde et qui ne sont pas malades. Mais dans certains cas, là encore, on ne peut pas faire des règles. On ne peut pas faire de règles. C'est seulement avec du discernement spirituel que tu peux voir certaines de ces choses. Ou parfois, tu as des gens qui sont malades parce qu'il y a un problème de péché derrière tout ça. Mais il y a des gens, des fois, qui sont dans le péché et qui ne sont pas malades. Okay ? Donc, il ne faut pas voir chaque maladie ayant pour origine derrière le péché. Ce n'est pas forcément ça, d'accord ? En tout cas, directement. Alors, après le verset 16, hein, c'est surtout celui-ci qui va m'intéresser à la fin du verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres dans le cas où il y a péché, que ce soit dans ce cas où on prie pour un malade, et que le malade donc doit dire avant pour que d'abord il soit pardonné, restauré dans sa relation avec Dieu, ce malade qui est né de nouveau mais qui est retombé dans le péché. Et à ce moment-là, on peut prier. Mais on ne peut pas prier pour quelqu'un qui vit dans le péché et qui demeure dans le péché. Ça, c'est pas la peine. Il faut d'abord lui dire, d'abord tu règles ton problème de péché avec le Seigneur, tu te remets en règle avec ton Seigneur, et après on peut prier pour toi et tu verras, tu seras instantanément guéri. C'est souvent le cas d'ailleurs. Priez les uns pour les autres pour que vous soyez guéris. Et regardez bien ce qu'il dit. La prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière agissante, c'est-à-dire que quelqu'un qui est juste, et rappelez-vous que nous sommes justes devant Dieu, nous redonnerons la définition de notre justice, une définition importante. La prière agissante du juste, la prière qui va œuvrer. Mais la prière, elle œuvre seulement avec quoi ? Avec la foi, bien évidemment. Du juste a une grande efficacité. Le mot efficacité m'intéresse ici. Efficacité égale obtenir le résultat désiré. Obtenir le résultat désiré. Il y a quelque chose dont les chrétiens doivent guérir. C'est de vouloir prier pour prier. Essayez la prière. Ça vous fera du mal. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, ils ont un problème, bon, et ils essayent de voir si Dieu va faire quelque chose pour eux. Bon, donc on va prier. C'est normal, on est chrétien, donc on essaye de prier. On prie, puis on va voir si Dieu va nous aider. Hein. On attend. Vous allez attendre longtemps, mes amis. Vous allez attendre longtemps et vous n'allez rien voir. Parce que dans une telle attitude, c'est qu'il n'y a pas de foi, c'est qu'il n'y a aucune efficacité. Si vous priez pour quelque chose, ayez pour détermination de voir le résultat. Sinon, ne priez pas, s'il vous plaît. Ne demandez pas au Seigneur quelque chose par rapport à votre situation. Si vous n'êtes pas prêt à aller jusqu'au bout pour voir le résultat, ce n'est pas la peine. Vous allez vous faire du mal vous-même dans votre vie spirituelle. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. À force d'avoir échoué dans le domaine de la prière, c'est devenu des trucs automatiques. Vous savez, ils sont là, bon, on va prier. Ben, oui, ben, on va prier. Hein. Vous savez, dans certains groupes, je me souviens ça aussi, c'est assez comique, dans certains groupes, bon, vous avez des sujets de prière, bon, ça j'aime aussi. Alors, vous êtes là, vous êtes dans un groupe de prière, bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un sujet de prière ici ? Alors, au début, grand silence. Tout le monde, comme ça. Quelqu'un commence à parler. Oui, moi j'en ai un. Et alors, pendant une demi-heure, on vous raconte la situation. Avec tous les points négatifs, bien évidemment. On a construit la foi, hein, d'abord. On vous raconte, pendant une demi-heure, que des trucs négatifs. Oui, et puis j'ai ça, et puis j'ai la douleur qui est là, qui apparaît trois fois par jour, de telle heure à telle heure. Quand je regarde ma montre, c'est sûr, la douleur arrive, et je suis comme ça, et je n'arrive plus à faire ceci. Enfin, on vous raconte tout un tas de trucs, vous savez, de A jusqu'à Z, hein, pour bien... Souvent, vous savez, ce que les gens veulent attirer, c'est de la sympathie, tout simplement. Non, mais c'est vrai, je vous assure, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils veulent attirer un peu de sympathie, un peu de, ce qu'on appelle en anglais, self-pity, c'est-à-dire qu'on les console, en quelque sorte, hein, qu'on leur dit, oh, mon pauvre vieux, t'as pas de chance, t'as encore ça comme problème. Tu sais, ah oui, mais tu sais, moi aussi, hein, j'ai le même problème. Hein. Mais c'est grave. Dans certains groupes, je vais vous dire, vous êtes là, on n'a pas l'impression que c'est des groupes de prière, c'est des groupes de 10 heures de mauvaises nouvelles, vous savez. Hein. Ils sont en train de raconter tous leurs problèmes pendant 2 heures. On raconte tout ce qui ne va pas. Puis après, le leader du groupe dit « Oui, frères et sœurs, le Seigneur est puissant. On va prier. Frère Intel, vous voulez prier ? Oui. Oh Seigneur, tu vois la situation de notre sœur. Oh Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, bénis-la. » Et alors, pendant une demi-heure, c'est le genre de truc qui est raconté dans la pseudo-prière. Et puis finalement, la sœur Intel ou le frère Intel, il va pas beaucoup mieux. Hein. Pourquoi ? Il n'y a aucune efficacité. Il n'y a aucune... Ça, c'est essayer la prière. Il y a beaucoup de groupes qui sont comme ça. Il y a beaucoup d'églises qui sont... On essaye. On verra comment prier en groupe pour être efficace. Mais si vous ne voulez pas obtenir le résultat, moi, je vous assure, quand je suis dans des groupes comme ça, et s'il y a ça qui s'y passe, j'essaye de m'esquiver par la petite porte. Parce que vraiment, ça me désole. Mais le pire, c'est quand vous êtes invité quelque part pour annoncer la parole de Dieu... Et d'abord, vous avez eu ça pendant au moins une demi-heure ou une heure, vous savez. Accompagné de 2 heures de chorasse négative aussi. Ah, je vais vous dire, quand il faut construire après les gens dans la parole de Dieu, mes amis, vous avez du boulot. Hein. On vous a déjà enterré tout le monde, et après, il faut les déterrer. Hein. C'est difficile. Hein. C'est vrai, mais si on veut voir quelque chose, il faut se mettre dans l'ambiance spirituelle. C'est-à-dire se préparer spirituellement. Se construire spirituellement. Et se dire, non, il y a tel frère qui souffre parmi nous, on veut le voir sorti de cette affaire. Et on va, nous, se joindre à lui et on va se construire ensemble dans la parole et après, on va prier ensemble. Et là, je vous garantis, on verra le résultat. Mais si c'est pour que ce soit inefficace, c'est même pas la peine. Moi, personnellement, je ne veux pas perdre mon temps avec des gens qui refusent, et je dis bien qu'ils refusent, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui font des groupes de pleureurs et de pleureuses, hein, de levée de deuil et de spirituel, entre guillemets, qui sont constamment en train d'enterrer leur situation par leur confession mauvaise de foi, raconter tout un tas de problèmes et pas « mais on va quand même essayer », entre guillemets. C'est pas ça que les gens disent, mais c'est souvent ce qu'ils font. Essayer la prière n'apportera jamais rien. Si tu mets quelque chose devant ton Seigneur, tu veux voir l'action divine. Si c'est pour ne pas voir l'action divine, regarde tes motivations, mais ce n'est pas la peine. Parce que ce qui anesthésie énormément les chrétiens, hein, vous savez ce que c'est qu'une anesthésie quand on vous met à l'hôpital, hein, c'est que quand il y a un monsieur qui va sortir son couteau pour vous ouvrir et pour changer quelque chose à l'intérieur de vous, hein, qui s'appelle un chirurgien, et on vous anesthésie avant pour pas que vous ayez peur de lui, hein, tout simplement. Hein. Heureusement qu'on dort avant. Hein. Et en fait, une anesthésie, c'est ça. On endort une partie de la personne, ou toute la personne, pour pouvoir s'occuper de lui à l'intérieur, d'accord ? Il y a des chrétiens qui s'anesthésient spirituellement. Ils s'endorment eux-mêmes, vous savez. Ils se bercent eux-mêmes, vous savez, pour dormir. Hein. Comme les bébés, vous savez, quand ils crient trop fort, hein, on essaye de les bercer pour que finalement la maman puisse avoir du repos. D'accord ? Ou la nounou, pauvre nounou qui souffre. Hein. Et en fait, on s'aperçoit que beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils s'endorment eux-mêmes spirituellement. Parce qu'ils essayent. Si c'est pour se réunir pour essayer la prière, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Par contre, des chrétiens qui se mettent en groupe, qui savent vraiment l'efficacité de la prière, qui disent non, moi, nous, on veut que cette situation change pour telle personne. On veut voir telle personne venir au Seigneur. On veut telle et telle chose. On veut voir vraiment le ciel toucher cette situation. Alors là, mes amis, là, vous êtes dans le bon groupe. Et là, vous allez voir des choses changer. Mais plus vous ferez des choses qui vous endormiront, qui seront gentils chrétiens, vous savez. Hein, y a beaucoup de groupes comme ça. Hein. C'est mignon, mais ça ne vole pas haut. Hein, c'est bien gentil. Ça, les réunions, on en fait. Ça, c'est le moins grand plaisir, mais ça ne vole pas haut. C'est grave. Il y a beaucoup de groupes comme ça. Et beaucoup d'églises comme ça. Ça, pour se réunir, les gens sont toujours là. Nous sommes là. Oui, nous sommes là. Nous prions. Oui, nous prions. D'accord. Votre efficacité, 0,004%. C'est pas mal cette année. Nous avons augmenté de 0,0001% par rapport à l'année dernière. Non. Regardons, soyons clairs. Marquons, il faut être clair. On dit tel jour, on prie pour telle situation et on veut que ça change et ça va changer. Et nous prenons cette ferme décision. Et je vous dis, il y a des règles spirituelles qui régissent la prière en groupe. Mais arrêtons de dire, on va essayer, on va bien voir ce qui s'y passe. Ou en tout cas, agir comme cela. Soyons fermes en disant, non, nous voulons voir un changement et nous verrons un changement. Et c'est comme ça que les choses se produisent. C'est comme ça que Dieu pourra alors agir et nous utiliser clairement dans le domaine de la prière. Moi, pendant des années, j'ai essayé la prière, je n'essaye plus la prière. Si je me décide pour quelque chose, je veux l'obtenir. Sinon, je préfère dire, je ne peux pas mettre de foi là-dedans, j'y arrive pas pour l'instant, j'attends. Je préfère méditer, je préfère passer du temps dans la parole, attendre que je sois vraiment motivé pour tes jeux. Vous savez, des fois, dans la prière, on n'est pas motivé pour certaines choses, il faut être clair. Hein, y a des choses où on dit, bon, ah oui, c'est vrai, il faudrait que je prie pour ça, c'est vrai, c'est vrai. Puis finalement, c'est bon, parce qu'on nous le dit, mais on n'est pas motivé vraiment. Tant qu'on n'est pas motivé, ce n'est pas la peine. Ça veut dire qu'on va essayer. Si on essaye, on n'aura rien. Essayer la prière n'amène aucun résultat. N'amène strictement aucun résultat. Donc c'est un choix que nous devons faire. Alors, il y a un certain nombre de choses. Bon, à propos de la justice, ici, on va quand même en parler, parce que c'est important. Je vous rappelle que la justice, notez que notre justice, c'est le fait de pouvoir nous présenter devant notre Père Céleste sans aucun sentiment, pouvoir nous présenter devant notre Père Céleste sans aucun sentiment de culpabilité ni même d'infériorité. Alors, pas de culpabilité et pas d'infériorité. Alors, la culpabilité est produite par quoi ? Le péché, bien sûr. Ok ? Rappelez-vous qu'il n'y a plus aucune condamnation sur vous. Vous êtes né de nouveau, il n'y a plus aucune condamnation. Ça, c'est une chose claire maintenant pour vous. L'autre chose, c'est l'infériorité, c'est-à-dire un mendiant ne demandera pas de la même façon à quelqu'un qui passe à côté de lui qu'un fils. Le fils fait partie de la famille, la fille fait partie de la famille. Le fils et la fille ne demandent pas comme un mendiant et n'a pas une relation d'infériorité. Quand on est fils ou fille dans une famille, c'est papa, maman. C'est une relation, nous avons, parce que nous venons de la même chair, nous venons donc de la même nature, dirions-nous. Nous sommes de la famille. Et Dieu nous a fait de sa famille. Dieu nous a rendus justes. Rappelez-vous qu'à partir du moment où vous êtes né de nouveau, vous êtes rendu juste. Je suis rendu juste. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune condamnation sur moi, il n'y a aucune condamnation sur vous. Et je suis mis dans une position de fils, de fille, du roi des rois. Je suis dans la famille. Et celui qui est dans la famille, il a le droit à l'héritage. Le mendiant n'a pas le droit à l'héritage. Il a le droit aux petites miettes de pain, au bon vouloir du maître. Et cette image est très forte chez beaucoup de chrétiens. Ils pensent qu'ils ont droit à quelques miettes de la part de Dieu et qu'ils doivent faire tout un tas de choses pour essayer d'impressionner Dieu, pour éventuellement recevoir quelque chose, quelques miettes. Non, tu es de la famille. Tu n'as pas les miettes. Tu as le meilleur en Christ. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment méditer, vous savez. Que beaucoup de chrétiens, et c'est normal, nous avons des mentalités religieuses quand nous nous convertissons, c'est normal. Nous pensons, nous avons toutes ces images de la religion que la religion nous a données. T'es un inférieur, t'es un pécheur, t'es quelqu'un là. Bon, c'est vrai, Dieu t'accorde une petite place quelque part, mais assieds-toi et fais pas de bruit. C'est ça, chez beaucoup de gens, c'est ça. Non, Dieu t'a dit, tu es dans la famille. Et à ce moment-là, ta prière peut et doit avoir une efficacité. Maintenant, bien sûr, il y a des lois qui régissent la prière. Il faut savoir les utiliser. Mais quand quelqu'un comprend mal sa justice, le fait d'être juste, sa relation avec Dieu ne marche pas. Ça ne marche pas. Et regardez, parlez avec des gens. Vous verrez, la plupart des gens, avec leur bouche, ils renient leur justice. Ils disent, oui, mais tu sais, il y a bien des péchés. Mais les péchés par omission, voyons. Les péchés par omission. Hein ? Il y en a bien quelque part. Vous voyez, et les gens commencent à dire, non, il y a certainement des choses que je ne connais pas qui déplaisent à Dieu. Non, nous savons que ça, c'est des choses religieuses. Nous savons que ce n'est pas des choses de l'Écriture. Oui, mais je suis accepté, bon d'accord, mais bon, peut-être moins que tel serviteur de Dieu. Non, ce n'est pas le fait d'être serviteur de Dieu ou pas serviteur de Dieu qui fait que tu es plus ou moins accepté au niveau de la vie de prière. La vie de prière est basée pour tout le monde sur la même ligne, la justice. La justice, le fait d'être juste devant lui. Et quand tu dis Père au nom de Jésus, tu sais que cette communication est là. Cette communication est là. Pourquoi ? Parce qu'elle t'appartient. Et ce n'est pas toi qui as gagné ça. Ce n'est pas moi. On n'y peut rien. Tu n'es pas indigne, tu es digne. Mais tu n'es pas digne parce que tu as fait quelque chose. Tu es digne parce qu'il t'a rendu digne. Et le reste, tu as juste à profiter, c'est tout. Et Dieu te dit simplement, profite. Profite de cette relation. Développe cette relation. Va de l'avant avec cette relation. C'est tout ce que Dieu nous demande. Mais ça, c'est des bases, vous savez. Parce qu'on ne peut pas parler de prière si on ne comprend pas ces choses. Si déjà ces bases ne sont pas bien comprises. Et il y a trop de gens, même ça, ils ne comprennent pas. Ils ne le savent pas. Et alors, ils se sentent pécheurs, et ils se sentent condamnés, et ils se sentent et ils se sentent. Peu importe de ce que tu te sens, si c'est dans ta tête ou dans ton âme, l'important c'est de savoir qui tu es dans ton esprit. C'est-à-dire une nouvelle créature. Si tu es une nouvelle créature, eh bien, il n'y a pas de raison. Ces choses-là sont clairement établies dans ton cœur. Parce qu'elles sont marquées dans la parole et c'est une réalité. Donc que tu découvres de plus en plus. Et à ce moment-là, la relation devient une chose qui est simple. Vraiment, si vous comprenez qu'avec Dieu les choses sont simples, c'est beaucoup plus facile. Il y a trop de gens, ils ont compliqué les choses avec Dieu. Trop compliqué. Alors après, ils ne savent plus où ils en sont. Avec Dieu, c'est simple. C'est très simple. Ce n'est pas complexe. Dieu n'a jamais prévu des choses compliquées pour nous. Dieu a prévu des choses simples. Nous sommes faits justes. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, ils n'étaient pas justes. Ils n'étaient pas justes. Leur justice était juste un petit morceau de temps en temps. Par exemple, nous savons que dans Jacques 2, 23, on va regarder courtement ce passage. Jacques 2, 23, on connaît l'histoire d'Abraham. Abraham qui a commencé à marcher sur les promesses de Dieu et à propos de son fils. Et dans l'Ancien Testament, vous verrez, il est dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, donc par rapport à la promesse que Dieu lui avait faite pour un fils, et cela lui fut imputé ou compté à justice. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mis à son compte, dans tout l'Ancien Testament. Personne n'était juste devant Dieu. Et vous avez remarqué que ces gens qui priaient, ils étaient obligés de forcer la porte. Ils étaient obligés de forcer la porte. Daniel va passer du temps dans le jeûne et la prière pour presser, parce qu'ils n'avaient pas un accès. C'était un accès vraiment sporadique, ponctuel, si vous voulez. Et c'est pour ça. On voit par exemple Anne, au début du livre de Samuel, la maman de Samuel. On voit, elle est là, elle prie, elle prie, elle prie. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se produit. Abraham crut à Dieu, et juste là, il y a un morceau de justice, juste pour sa situation, qui lui permettra d'avoir cet accès. Juste pour sa situation, mais pas pour le reste, dans la prière en tout cas. Donc ces gens-là, vous connaissez cette parole de Jésus. Jésus dit, pour l'instant, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ça s'applique à ça. Pourquoi ? Parce que c'était des gens, il fallait qu'ils forcent la porte pour avoir ce petit morceau de justice qui leur permettrait que leur prière passe. Juste leur prière passe. Nous n'avons pas notre prière qui passe. Nous avons un accès qui est ouvert. L'abonnement est là. J'aime bien prendre cette image du téléphone parce que c'est toujours comme ça. Nous sommes connectés, nous sommes reliés en permanence. Maintenant, c'est à nous de décrocher le téléphone et de composer le numéro. C'est tout. Rien d'autre à faire. Et à ce moment-là, la communication s'établit. Dans le sens, nous avons la ligne nous appartient. Mais au moment où tu passes du temps avec Dieu, c'est là où la connexion se fait, directement. C'est-à-dire où ça passe. C'est le moment où ça passe, tout simplement. Mais le potentiel de connexion est là, tout simplement. Nous sommes connectés, c'est ouvert, nous avons juste à en profiter. Dans l'Ancien Testament, c'était mis à leur compte, imputé à justice, comme disent dans certaines traductions, c'est-à-dire juste un petit morceau pour que la prière pour laquelle ils avaient forcé la porte puisse passer, qu'ils puissent avoir leur réponse. C'est pour ça d'ailleurs que nous verrons que dans l'Ancien Testament, ils avaient beaucoup de combats. Vous avez remarqué, ces hommes et ces femmes de Dieu, ils étaient là, d'un seul coup, ils voient un grand miracle, et puis juste après, c'est un grand coup de baguette qu'ils reçoivent sur la tête, ou un grand coup de tout ce que vous voulez, et poum, ils sont complètement par terre. Élie, par exemple, d'un seul coup, met de l'eau sur un animal et confond les je ne sais combien de centaines de prophètes là, de Baal. Un grand miracle se passe, et puis juste quelques temps après, il est complètement par terre, complètement déprimé. Et Dieu est obligé de lui dire, ok, maintenant ça va trop loin, il commence à craquer, je vais prévoir quelqu'un d'autre pour le remplacer. Il y a encore une dizaine d'années, et puis après c'est bon. Sinon il risque de mal terminer, peut-être. En tout cas, Élie a eu un problème de ce côté-là, c'est clair. Dieu l'a remplacé avant son terme, avant qu'il meure vieux, tout simplement. Parce qu'il y avait des pressions terribles, 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 parce qu'il n'était pas né de nouveau. C'était des gens, Abraham, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Oh là 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 là, tout un tas de problèmes qui se passent là-dessus. Il y a plein de gens comme ça dans l'Ancien Testament, vous les voyez, ils marchent avec Dieu, c'est une révélation de Dieu. Puis d'un coup, plouf, on les voit faire des blagues terribles. On dit, attends, homme de Dieu, femme de Dieu. Ben oui, parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Donc c'était vraiment en dents de scie. Leur vie spirituelle, c'était une dents de scie. D'un seul coup, ils voyaient un grand miracle de Dieu, et puis 5 minutes après, j'exagère un peu, mais presque, c'était des attaques diaboliques terribles. Et ils vivaient des trucs durs, durs, durs. Et ils craquaient souvent. Pas toujours, mais ils craquaient. Ils craquaient. Abraham accepte d'aller vers sa servante pour accomplir la promesse. Waouh ! Vous imaginez un peu ? Bon, il y a plein de choses comme ça que vous verrez, situation après situation. Parce qu'en fait, cet accès, il était là, de temps en temps, quand il forçait la porte. Mais il n'avait pas un accès régulier. Il n'avait pas cet accès régulier. Donc effectivement, ça crée un certain nombre de problèmes. Pas évident, ils n'étaient pas nés de nous. Nous, nous avons la grâce d'être justes. Nous avons été justifiés. Profitons-en, mais découvrons-le. S'il vous plaît, découvrons-le. Méditons sur ce sujet, c'est extraordinaire. Savoir que je suis juste en Jésus-Christ, c'est merveilleux. Dire simplement, Père, au nom de Jésus, et j'ai mon accès, paf, qui s'ouvre, pouf. C'est là, c'est potentiel, et paf, je peux en profiter. Et ça passe. Vous voyez, donc, il y a plein de choses. Donc, quand vous lisez les prières de l'Ancien Testament, faites attention à ça. Rappelez-vous toujours d'une chose, il n'était pas juste aux yeux de Dieu. Ok ? Alors, méfiez-vous, parce que certaines traductions, parfois, par exemple, dans Job, ou dans des trucs comme ça, où on dit... Job était un homme juste. En fait, ce n'est pas tout à fait une bonne traduction. Vous savez, de temps en temps, il y a des traductions comme ça dans certains passages de l'Ancien Testament. Ce n'est pas tout à fait ça. Quand on dit juste, c'est-à-dire quelqu'un qui, en fait, était bon moralement, dirions-nous. Enfin, il essayait de faire du mieux qu'il pouvait dans ses décisions et dans sa moralité. C'est ça que ça voulait dire. Mais ça ne voulait pas dire sa position. D'accord ? Donc, faites attention quand vous lisez l'Ancien Testament. L'hébreu est une langue assez vague et parfois, on essaye de traduire au mieux. Mais aussi, il y a certains termes qui peuvent porter à confusion. Mais en aucun cas dans l'Ancien Testament, ils étaient déclarés justes. Non, c'est nous, la nouvelle création, où nous sommes déclarés justes. Donc la prière du juste a une grande efficacité quand elle est faite dans les règles spirituelles que Dieu nous a données en Jésus-Christ. Et c'est ça que nous allons étudier de plus en plus dans ce cours, pour que vous puissiez découvrir de plus en plus cette bénédiction qu'est la prière, quand vous savez profiter de cet accès, comment en profiter et pouvoir le développer de plus en plus. Merci.
IBEM, Institut Biblique Enseigne-moi, la formation biblique par excellence. Des enseignements de grande qualité spirituelle et loin.
Vous écoutez un cours de première année, année qui comprend plus de 300 heures de cours en audio et vidéo.
Institut Biblique Enseigne-moi, pour ceux qui ont soif de grandir.
Rendez-vous sur www.ibem.fr.
www.ibem.fr.